personne n'est maître de sa vie, mais que le Seigneur est le Tout-Puissant, que lui connaît toutes choses, peut toutes choses, et que nous avons besoin donc de nous tourner vers lui. Et nous allons le regarder à travers l'histoire de deux rois. Donc deux rois d'Israël. En fait, dans le livre des rois, il y a plusieurs histoires qui se ressemblent de rois malades qui reçoivent une parole de Dieu de la part du prophète pour dire s'ils vont survivre ou non à cette maladie. Et aujourd'hui, nous allons regarder deux de ces histoires en particulier, deux de ces histoires particulièrement frappantes, parce que quand on les met côte à côte, on voit que ces deux rois reçoivent le même message de la part du prophète, annonçant que finalement ils vont mourir de cette maladie. Mais ce qui est intéressant dans ces deux histoires, c'est la manière des rois de réagir face à ce message, face à cette nouvelle. Et on va voir que donc leur manière de réagir va influencer la fin de leur vie. Et puis donc, puisque l'apôtre Paul nous dit que Dieu a inspiré les prophètes d'écrire ces histoires des événements de leur époque, parce que ça pouvait nous apprendre quelque chose concernant le Seigneur, on va voir aussi comment les réalités spirituelles derrière ces histoires influencent également nos vies et en particulier notre destinée éternelle, reflétant donc le message de l'Évangile pour nous tous. Premièrement donc, on va regarder le diagnostic, si vous voulez, que ces rois reçoivent à travers le prophète. Et la première de ces deux histoires concerne donc le roi Akazia d'Israël. Donc, quand je parle d'Israël à ce moment-là de l'histoire, vous savez bien que suite au règne du roi Salomon, le royaume d'Israël s'est divisé en deux. Il y avait deux parties, une partie au nord avec 10 tribus qui se sont rebellés contre Roboam, le fils de Salomon, en disant, si ça va être comme ça sous ton règne, si ça va être encore plus dur, encore pire que sous Salomon, alors nous, on vous quitte, vous vous débrouillez en Juda, vous vous débrouillez à Jérusalem, mais nous n'avons aucune part de la famille de David. Et donc, ils créent leur propre royaume du Nord, qui était connu donc sous le nom de Royaume d'Israël. Et donc, le roi Akazia de ce Royaume du Nord d'Israël va tomber malade et va recevoir un message à travers le prophète Élie, qui justement, signe de la grâce de Dieu, exerçait son ministère dans ce Royaume du Nord. Et donc, on va voir cette histoire dans 2 Rois chapitre 1. 2 Rois, chapitre 1, à partir du premier verset. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit, « Allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. » Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie de Tishbite, « Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Et Élie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia et il leur dit, « Pourquoi revenez-vous ? » Ils lui répondirent, « Un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, « Allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui, « Ainsi parle l'Éternel, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron ? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Donc, le roi Akazia reçoit ce message de la part d'Élie. Alors, ce qui est intéressant à voir dans cette histoire, c'est que ce roi d'Israël ne cherche finalement pas du tout une parole de la part de l'Éternel. Il n'envoie pas chercher le prophète Élie pour venir lui dire s'il va guérir ou non. Finalement, quand on voit les reproches du prophète, Akazia vivait comme si le Dieu d'Israël n'existait pas. Alors, ce qui est important de se rappeler à cette période de l'histoire d'Israël, c'est que justement, ce royaume du Nord qui s'était rébellé contre la famille de David, qui s'était séparé de Jérusalem, finalement, dès sa création, était en fait devenu un pays païen. Il n'adorait plus le Dieu d'Israël, il n'allait plus à Jérusalem. Dès la création de ce pays, on a créé des idoles en disant, ben voici maintenant vos dieux. Et puis par la suite, différents rois ont introduit de plus en plus de cultes païens dans le pays, au point où donc, pour le roi d'Israël, c'est comme si le Dieu d'Israël n'existait pas. Lui, il disait, ben, il faut aller consulter telle autre divinité dans un des pays voisins pour savoir si je vais guérir ou non de cette maladie. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, bon, le peuple d'Israël vivait comme si le Dieu d'Israël n'existait pas, mais le Dieu d'Israël, lui, tenait toujours au peuple d'Israël. Et il disait, vous pouvez faire le choix que vous voulez, mais sachez que je suis toujours votre Dieu, vous êtes toujours mon peuple, vous habitez toujours mon pays, et moi je m'intéresse à vous, et je viens me révéler à vous. Justement, c'est intéressant de voir que le prophète Élie, qui avait un ministère tellement remarquable, avait ce ministère non pas à Jérusalem, mais dans ce royaume païen, le royaume d'Israël du Nord. Mais voilà donc, Dieu, puisque lui considérait que c'était toujours son pays, que c'était toujours son peuple, voyait ce qui se passait, s'intéressait à ce qui se passait, et donc envoie le prophète Élie pour dire, ben, écoute, tu vas aller à la rencontre de ces messagers qui sont sur le chemin pour aller consulter une divinité à côté, et tu vas leur dire, ce n'est pas ces divinités-là qui vont te donner une réponse, mais moi, je vais te répondre, car ta vie est entre mes mains. C'est moi qui suis Dieu, c'est moi qui a le dernier mot à dire sur votre vie, donc c'est moi qui va te donner la réponse. Et donc, Dieu envoie à travers le prophète ce message pour dire qu'il va mourir. On va maintenant tourner à la deuxième histoire. D'un roi donc, qui reçoit un message de cette manière, ce même diagnostic de la part de Dieu. Cette fois-ci, c'est un des descendants de Salomon, donc un des rois de Juda, le royaume du sud, à Jérusalem. Et c'est le roi Ézéchias qui, lui, va recevoir une parole de Dieu de la part du prophète Ésaïe en 2 Rois, chapitre 20, verset 1er. Donc un peu plus loin dans le même livre, 2 Rois chapitre 20. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Donc, même diagnostic, même message de la part du même Dieu à travers son prophète, tu vas mourir de cette maladie. Alors là, à nouveau, cette fois-ci, le roi, étant le roi de Juda, étant en plus un roi qui est plutôt considéré favorablement dans la Bible, il n'envoie pas voir une autre divinité. Tout simplement, il est malade, il ne cherche pas à en savoir plus, mais Dieu quand même lui parle dans sa situation, Dieu se révèle à lui. Et Dieu donc envoie le prophète Ésaïe pour lui annoncer la nouvelle, le diagnostic. Tu vas mourir de cette maladie. Donc, deux diagnostics identiques pour ces deux rois. Tous les deux reçoivent de Dieu le message « Tu vas mourir ». Donc des points très similaires, même s'il y a quelques petites différences entre les deux rois et les deux histoires. Mais donc, ce qui est intéressant, et là où les deux histoires se divergent complètement, c'est au niveau des réactions des rois face à cette parole de Dieu qu'ils ont reçue. D'abord donc, regardons la réaction du roi Akazia dans 2 Rois chapitre 1er à nouveau. On va lire jusqu'au verset 16. Donc, à partir du verset 7, Akazia dit au serviteur, « Quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles ?» Ils lui répondirent, « C'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. » Et Akazia dit, « C'est Élie le Tishbite. » Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie qui était assis sur le sommet de la montagne et il lui dit, « Homme de Dieu, le roi a dit, descends. » Élie répondit au chef de 50, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, « Homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. » Élie leur répondit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant, « Homme de Dieu, que ma vie je te prie et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Voici, le feu est descendu du ciel et a consumé les deux premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. » L'ange de l'Éternel dit à Élie, « Descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. » Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Il lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal Zébub, dieu d'Écron, comme s'il n'y avait en Israël point de dieu dont on puisse consulter la parole, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Donc, lorsque Akazia reçoit ce message de la part de ses serviteurs qui disent « On a rencontré un homme de Dieu qui nous a donné ce message de Dieu pour toi », le roi finalement est irrité, se fâche devant ce message, il dit « Mais c'était qui vous a parlé ?» Et dès que les serviteurs le décrivent, il sait très bien de qui il s'agit, il dit « Ah, c'est Élie !» Et donc il connaissait bien Élie, depuis sans doute son enfance, puisque déjà ses parents avaient eu grande affaire avec le prophète Élie. Et Akazia semblerait vouloir du coup donc mettre terme à cette histoire, mettre à mort le prophète, le messager, tellement le message le fâchait et allait à l'encontre de ce qu'il voulait. Et donc réagit exactement comme ses parents le faisaient confronter avec le prophète Élie une génération auparavant. Donc dans 1 Roi chapitre 18, on a une rencontre entre Akab et Élie. Et dans 1 Roi 18-17, à peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit « Ah, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Le roi Akab était un des pires rois, même dans le royaume du nord d'Israël, avait introduit beaucoup de cultes païens supplémentaires, Et donc, à travers le prophète Élie, Dieu remettait en cause tout ce paganisme qui existait dans le pays. Et Dieu avait annoncé qu'à cause de leur rejet de l'Éternel, le pays allait subir les conséquences, allait subir le jugement de Dieu. Et donc, Élie avait annoncé ces jugements à venir. Le roi, au lieu de se remettre en question, au lieu de reconnaître que c'était ses décisions, son comportement, sa rébellion contre Dieu qui avait entraîné le pays dans des difficultés, il blâme Élie pour ce qui arrive. Et dit, c'est toi qui as annoncé ces jugements, c'est toi le fautif, c'est toi qui jette le trouble en Israël. Après, il y avait une rencontre encore plus explosif entre Élie et la reine Jézabel. Donc Jézabel qui sponsorisait le culte de Baal en Israël, et Élie donc qui confronte les prophètes de Baal. Et si vous vous souvenez, donc les prophètes de Baal n'arrivent pas à avoir une réponse de la part de Baal devant leur sacrifice. Élie, par contre, le feu tombe du ciel, allume son sacrifice, et résultat, donc, le peuple se soulève, se rappelle de l'Éternel, et donc Élie fait mettre à mort tous les prophètes de Baal. Et dans 1 roi 19, verset 1er, il est écrit qu'Acab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Autrement dit, « Je vais te mettre à mort. » Donc lorsque Akazia envoie des troupes à la poursuite d'Élie pour l'arrêter, en fait, il est juste en train d'imiter le modèle qu'il avait vu chez ses parents, qui se fâchait aussi devant la parole de Dieu et voulait mettre à mort le messager. En tout cas, ce qui est clair, c'est que chez Akazia, on ne voit aucun signe de repentance. Au contraire, on voit juste cette expression de force où il veut faire taire le prophète parce qu'il n'aime pas le message. On a vu qu'Ézéchias, roi de Juda, a reçu le même diagnostic d'Akazia. Par contre, chez Ézéchias, on va trouver une réaction tout autre à ce que Dieu avait à lui dire. Si vous vous souvenez, donc, Ésaïe, le prophète, va vers Ézéchias pour dire « Prépare-toi, car tu vas mourir ». Alors, quelle est la réaction d'Ézéchias dans 2 Rois 20, versets 2 et 3? Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ézéchias était roi, avait des gardes de palais. Il aurait pu réagir comme Akazia et dire « Bon, si c'est tout ce que tu as à me dire, tu vas le payer cher et le faire arrêter et exécuter. » Au lieu de s'en prendre à Ésaïe, au lieu de s'en prendre à Dieu et dire « Ce n'est pas ça que je voulais entendre », Ézéchias se s'humilie devant Dieu, se tourne dans la prière vers Dieu et il dit « Seigneur, ma vie est entre tes mains. Il n'y a que toi qui puisse me sauver. Seigneur, tu es mon Dieu. Rappelle-toi, Seigneur, cette relation que j'ai avec toi. Rappelle-toi que j'ai marché devant toi et que je t'ai obéi. Seigneur, il n'y a que toi qui puisse me sauver. » Et donc, Ézéchias se jette sur la grâce de Dieu et demande que Dieu lui fasse grâce et le relève. Donc, leurs réactions devant la parole de Dieu sont complètement différentes. Akhazia d'un côté qui se fâche devant cette parole qu'il a entendue, Ézéchias qui reçoit la même parole, mais qui s'humilie devant le Seigneur. Et ce qu'on va voir, c'est que leurs réactions devant ce que Dieu avait à leur dire vont être déterminantes pour leur destinée et pour la suite de l'histoire. Donc, si on retourne à nouveau dans le premier chapitre de Deux Rois avec Akhazia, verset 17, Akhazia mourut selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie, et Joram régna à sa place. Cette parole que Dieu avait annoncée a été confirmée par le prophète Élie lorsque il est enfin descendu au palais avec le troisième troupe de soldats. Et donc le roi meurt dans son péché, dans son attitude de rébellion contre Dieu. Ézéchias, par contre, lui qui a réagi tout autrement, lui va connaître un autre sort, même si à la base il avait reçu la même parole qu'Akhazia. Dans 2 Rois chapitre 20 verset 4, Ésaïe, qui était sorti, après avoir dit au roi, Dieu m'a envoyé dire, prépare-toi car tu vas mourir. Il n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes, retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, de ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ézéchias a tout de suite réagi d'une toute autre manière. La Bible nous dit, Ésaïe n'avait même pas eu le temps de traverser tout le complexe du palais que Dieu a vu la réaction du cœur du roi Ézéchias, a vu qu'il s'est humilié, qu'il s'est repenti devant Dieu, qu'il s'est jeté sur la grâce de Dieu. Et donc Dieu dit au prophète, demi-tour, tu vas retourner maintenant dire au roi que finalement, il ne va pas mourir. Je vais le guérir. J'ai entendu sa prière, j'ai vu son cœur, j'ai vu sa réaction et je vais lui répondre favorablement. Donc, Dieu voyait comment Ézéchias a réagi face à ce message. Pas du tout comme Akhazia qui voulait mettre à mort le prophète. Ézéchias a reconnu que son seul espoir, c'était que Dieu lui fasse grâce. Et c'est ce que Dieu a fait, comme d'ailleurs la Bible nous montre, Dieu fait toujours. Akhazia, malheureusement, avait appris une partie des leçons de la vie de ses parents. Mais il avait appris la mauvaise partie de la leçon. S'il avait regardé d'autres moments dans la vie du roi Akhab, il aurait mieux compris et peut-être mieux réagi devant cette parole de Dieu. Parce que même si à un moment donné, Akhab blâmait Élie pour ce qui se passait et que sa femme a essayé de mettre Élie à mort, à un moment donné, Akhab a compris qu'il y avait effectivement un Dieu en Israël et que c'était lui qui avait toujours le dernier mot sur son peuple. Dans 1 Roi, chapitre 21, le verset 27, il est écrit qu'après avoir entendu les paroles d'Élie, Akhab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. As-tu vu comment Akhab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Ce qui finalement était le cas chez Akazia, qui lui endurcissait son cœur devant le Seigneur et en a pris toutes les conséquences. Akab, malgré tout ce qu'il avait fait jusque-là, s'est humilié devant Dieu et donc Dieu l'a pardonné. J'ai vu comment Akab s'est humilié devant moi et du coup je ne vais pas faire venir le malheur pendant sa vie. Akab, qui était sans doute un des pires rois du royaume du nord d'Israël, on a un cas similaire aussi dans le royaume de Juda au sud, qui montre la grâce de Dieu, qui montre que Dieu pardonne le pécheur, aussi mauvais soit-il, qui s'humilie devant Dieu, qui se repent. Parce que le pire des rois du royaume d'Israël et de Juda, c'était sans doute le roi Manassé, qui lui héritait donc un royaume qui était dédié à l'Éternel, et on a introduit plein de cultes païens, de fausses divinités, qui même a introduit des sacrifices d'enfants dans la capitale à Jérusalem. Et donc à cause de ses péchés, et les péchés dans lesquels il a entraîné son pays, l'Éternel envoie des armées étrangères pour conquérir le royaume de Juda. Et on lit dans 2 Chroniques chapitre 33 que donc, verset 11, l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Si on s'arrêtait là, on dirait bien fait pour lui. Il a eu ce qu'il méritait. Sans doute, avec l'évolution de nos cultures, beaucoup de gens diraient que c'était son karma, parce qu'il était tellement mauvais qu'il a subi les conséquences. Mais Dieu ne respecte pas le karma des gens. Dieu reconnaît l'état du cœur. Et même lorsque le pire des pécheurs se repent et s'humilie devant lui, Dieu entend et répond. Parce que donc ce roi Manassé, lié par des chaînes à Babylone, lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem, dans son royaume, et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Manassé, le pire des rois, à la fin de sa vie, reconnaît que l'Éternel est Dieu, s'humilie devant ce Dieu, et la Bible nous dit que Dieu s'est laissé fléchir devant cette réaction de Manassé, et donc il l'a pardonné. Du coup donc, nos deux rois, Akazia et Ézéchias, parce qu'ils ont réagi de manière diamétralement opposée à la parole de Dieu, ils ont connu deux destinées complètement différentes. Chez l'un, le jugement est tombé. Ce jugement, tu vas mourir, il est mort. Ézéchias, tu vas mourir. Mais Dieu s'est laissé fléchir devant l'humiliation du roi et l'a guéri. C'est là où donc ces deux rois peuvent souligner une leçon importante pour nous qu'on trouve dans la Bible. Parce que finalement, quel que soit l'état de notre santé physique, quels que soient nos bilans de santé, nous nous trouvons dans une situation similaire à ces deux rois. C'est-à-dire, en tant qu'être humain, Dieu nous adresse le message « Prépare-toi, car tu vas mourir ». C'est le cas de tout être humain. Simplement parce que lors de la création, Dieu annonçait à Adam et Ève en Genèse chapitre 2, verset 15, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Malgré cet avertissement de la part de Dieu, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont désobéi à Dieu, ils ont cru savoir mieux que Dieu. Et donc dans Genèse chapitre 3, conséquence de leur acte, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Tu vas mourir parce que j'avais dit que le jour où tu mangeais de ce fruit, tu mourrais. » À partir de là, Adam et Ève sont devenus des êtres mortels, et depuis, tous leurs descendants portent cette mortalité dans leur corps depuis leur naissance, portent également cette inclination au péché dans leur vie. La Bible nous dit donc que tout être humain est condamné à mort. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. On meurt à cause de nos péchés, physiquement, mais si on endurcit nos cœurs devant ce que Dieu nous dit et on s'enorgueillit de nos péchés devant Dieu, également spirituellement, parce que la Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Et la Bible nous dit dans Romains 3, 23, au cas où, on se dirait, bon, peut-être quelques autres, mais pas moi, il n'y a point de distinction. Tous ont péché. Tout être humain, dit Dieu, est pécheur et donc est condamné à mort à cause de son péché. Tout comme Dieu avait envoyé le prophète dire à ses deux rois, « Prépare-toi, tu vas mourir. » Mais comme pour eux aussi, ce qui va être déterminant, c'est notre manière de réagir à cette annonce de la part de Dieu. Dieu dit à tout être humain, « Puisque tu es pécheur, tu vas mourir. » Il y en a qui vont réagir comme Akasia, qui vont réagir par orgueil et dire, « Non, mon comportement n'est pas du péché. Moi, je ne suis pas pécheur. » Soit ils vont se comparer à d'autres en disant, « Ah ben, je suis quand même meilleur que lui. » Je comprends que Dieu va le faire mettre à mort lui, mais pas moi. Je ne suis pas à son niveau. » Ou ils vont dire, « Ah ben, ce que moi je fais, ce n'est pas du péché. » Peut-être par le passé, les gens croyaient que c'était mauvais, mais bon, aujourd'hui nous sommes éclairés et nous savons que ce que moi je fais, ce n'est pas péché. Donc Dieu n'a pas le droit de me toucher à cause de ça. Dieu dit à l'être humain, « Si tu n'obéis pas à ce que moi je dis, les conséquences vont être la mort. » D'autres vont refléter la réaction d'Akasia dans le fait où, puisqu'ils n'aiment pas ce message, ils vont se fâcher, soit ils vont rejeter Dieu, soit ils vont essayer de faire taire ce message de Dieu parce que ça ne leur convient pas. D'autres vont réagir comme Ézéchias, vont accepter que ce que Dieu dit est vrai. Et au lieu d'endurcir leur cœur, comme le faisait Akasia, vont s'humilier devant cette parole de Dieu, vont reconnaître, Seigneur, ce que tu dis est vrai. Mon seul espoir, je reconnais que je n'ai aucun pouvoir sur ma vie. Peu importe ce que je fais devant ce message, je n'ai aucun moyen de changer ce que toi tu as dit. Tout ce que je peux faire, c'est faire appel à ta grâce. Te demander de me faire grâce malgré cette annonce de jugement contre moi. Reconnaissant donc que Dieu seul a le pouvoir sur la vie et sur la mort, en s'humiliant devant lui, comme l'a fait Achab, comme l'a fait Manassé, comme l'a fait Ézéchias. Lorsque Jésus s'est révélé à l'apôtre Jean au début de l'Apocalypse, dans le chapitre 1er, verset 17, il lui dit : « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Notre seul espoir face à ce message de la part de Dieu, c'est de reconnaître la vérité de ce qu'il dit et dire « Toi seul, tu as les clés de la mort et du séjour des morts. Ma vie est entre tes mains. Ma destinée est entre tes mains. Si j'ai un dernier espoir pour éviter cette condamnation à mort, c'est toi qui tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » C'est justement pour cela que les apôtres, lorsqu'ils annonçaient l'évangile, appelaient à la repentance. Actes chapitre 3, verset 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Disait votre seul espoir, c'est comme les rois de notre histoire, votre seul espoir, c'est de vous humilier devant Dieu. Dieu disait au prophète Élie, « As-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi ?» Manassé s'est humilié profondément devant le Dieu de ses pères et lui a adressé ses prières. Et Dieu s'est laissé fléchir. Comme donc pour ces rois, comme pour Achazia, comme pour Ézéchias, notre destinée éternelle va dépendre de cette relation avec celui qui tient les clés de la vie et de la mort. Va dépendre du fait de recevoir sa grâce. Va dépendre du fait que, après avoir envoyé le prophète pour dire « Tu vas mourir à cause de ton péché », qu'on puisse recevoir la parole de envoyée du prophète après, qui dit « J'ai vu ton cœur, je vais te guérir. Tu ne vas pas mourir. » Dieu avait envoyé Moïse, les prophètes, pour annoncer toute âme qui pêche et celle qui mourra. Par la suite, il envoie les apôtres dire « Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Christ Jésus. Ce matin donc, nous nous trouvons tous dans la même position que ces deux rois, avec un Dieu qui envoie les prophètes dire « L'âme qui pêche mourra, car le salaire du péché, c'est la mort. » Et puis, il veut voir notre réaction. Si ce matin, nous nous endurcissons nos cœurs, alors effectivement, cette parole se retourne contre nous. Mais si par contre, comme Ézéchias, nous nous jetons sur la grâce de Dieu en disant « Oui, mais Jésus-Christ est mort pour moi. Et lui, il tient les clés de la vie et de la mort. » Dieu se laisse fléchir encore aujourd'hui. Il fait grâce encore aujourd'hui et il proclame encore aujourd'hui « J'ai vu ton cœur, j'ai entendu ta prière et je vais te guérir. » Ce matin, s'il y a quelqu'un qui ne s'est pas encore humilié devant le Seigneur en reconnaissant que lui seul a le pouvoir sur la vie et sur la mort, que ce que lui dit est vrai, Encore aujourd'hui, le Seigneur donne l'opportunité de réagir avec humilité devant sa parole, de le reconnaître pour qui il est et de dire, Seigneur, tu es mon seul espoir. Je crois que ta parole me concerne. Je reconnais que tu es le seul vrai Dieu ayant le pouvoir sur la vie et sur la mort. Seigneur, rappelle-toi de moi. Pense à moi, guéris-moi, pardonne-moi.